Bien, nous allons reprendre nos travaux pour cette troisième journée. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir parmi nous un sociologue, Louis Pinto, un sociologue précieux parce qu'il connaît très bien le monde philosophique, qu'il étudie depuis longtemps, les institutions de la philosophie, l'enseignement philosophique, le métier de professeur de philosophie, les courants divers et variés de la philosophie française du XXe siècle. Et dans une reconstruction de la raison, le concours des sociologues est indispensable. Louis, tu as la parole.
Bien, cette présentation me met tout à fait à l'aise. Je remercie, elle n'est pas encore là, mais je tiens à le faire, Claudine Tiercelin, de m'avoir invité dans cette éminente assemblée. Et je suis sûr de trouver auprès d'elle, ainsi qu'auprès de Jacques Bouvresse, des auditeurs par rapport à la sociologie non défensifs, ce qui n'est pas toujours le cas parmi les philosophes, et de plus, tout à fait, mieux encore, très compréhensifs à l'égard de ma discipline. Donc, comme toute discipline historique, la sociologie est confrontée à une antinomie en quelque sorte constitutive. D'un côté, elle présuppose que le monde social peut être l'objet d'une connaissance objective et impersonnelle, permettant de s'élever au-dessus des limites contingentes et externes, limites institutionnelles, économiques, idéologiques, etc. Et le sociologue, considérant son propre point de vue, sera conduit à penser que le sien ne peut pas être mis sur le même plan que celui des profanes, ce qui est effectivement l'attitude de tout scientifique. Mais d'un autre côté, la sociologie n'est pas totalement naïve de ce point de vue-là, et elle ne peut pas ne pas se considérer elle-même comme une production culturelle justiciable d'un certain nombre de méthodes mises en œuvre pour d'autres productions culturelles. Par exemple, il en va ainsi quand on se demande quelles sont les conditions historiques d'apparition de la sociologie, pourquoi il y a des styles nationaux différents et en quoi telle ou telle œuvre peut porter la marque du contexte scientifique ou idéologique qui a été le sien. Ce relativisme que l'on pourrait appeler méthodologique ou plus simplement de métier, doit-il conduire à un relativisme d'ordre proprement théorique prenant la forme de thèse philosophique? C'est une question à laquelle il est difficile d'échapper. Alors, une antinomie de ce type entre objectivité et réalité, et relativité, pardon, est difficile à ignorer dans la mesure où elle ne cesse de se présenter sous des dehors différents, par exemple en sociologie des sciences, ou encore à propos d'une question récurrente comme la différence entre le point de vue savant et le point de vue ordinaire. Alors, je n'aurai ni la naïveté ni la prétention de venir à bout ici ou ailleurs de problèmes soulevés, il me suffira de montrer, à propos de quelques points, à quoi, pour un sociologue, pourrait ressembler une approche rationaliste. Donc je vais, mon premier point, donc c'est le plan qui est indiqué ici. La première des choses est sans doute de voir comment certains sociologues ont tenté d'apporter une réponse aux problèmes qui se posent à l'ensemble des sciences sociales, à la sociologie, ou aussi à l'histoire, à l'ethnologie, etc. Faut-il choisir entre un universalisme bien vite soupçonné de nos jours de n'être que le visage de l'ethnocentrisme, d'une part, et d'autre part, le relativisme? Alors, il est significatif que pour Durkheim, ce type d'interrogation se soit présenté à l'occasion d'un cours professé à la Sorbonne en 1913-14 sur le pragmatisme, en particulier le pragmatisme de William James, John Dewey, et Ferdinand Schiller. Alors, ce n'est évidemment pas l'apport de Durkheim à l'analyse du pragmatisme qui sera présenté ici, ce n'est pas mon propos, mais plutôt ce qu'une telle analyse peut révéler quant au présupposé d'une théorie sociologique de la connaissance. On sait qu'à cette époque, le pragmatisme est à la mode. René Berthelot lui a consacré un ouvrage de synthèse en 1911-1913, plusieurs traductions de James sont parues, et Bergson a usé de son pouvoir de consécration en faveur de James, dont il a préfacé le pragmatisme, traduit en 1911. Ajoutons à ces lecteurs savants un certain nombre de lecteurs profanes qui se recrutent dans une fraction de l'anarcho-syndicalisme et de la droite, lecteur séduit par l'exaltation de l'action et le rabaissement de la pure connaissance. Tout cela a sans doute contribué à donner à Durkheim le sentiment qu'il y avait urgence à faire le point, la menace perçue sur la valeur des savoirs scientifiques concernant aussi la démocratie. Durkheim ne pouvait en effet être que peu rassuré par le voisinage qui était tout à fait dans l'air du temps de noms comme ceux de James, Bergson, Sorel, Nietzsche, même si curieusement il se montre plutôt indulgent envers Nietzsche, considéré plutôt comme un artiste que comme un philosophe véritablement conséquent. Donc d'emblée, Durkheim souligne une certaine parenté de la sociologie et du pragmatisme qui auraient en commun le souci de, comme dit Durkheim, d'érédire la vérité. Ce qu'il faut entendre par là est, semble-t-il, le refus d'un dogmatisme de type platonicien consistant à postuler des essences intemporelles pour assurer un garant à la notion de vérité. C'est sur ce point que Durkheim n'a cessé de s'opposer à la philosophie universitaire de son temps. L'une des cibles les plus constamment visées par ses critiques est justement la méconnaissance de l'histoire et la prédilection pour des abstractions, des généralités un peu vides, des notions décontextualisées. Dans la morale, dans les catégories de l'entendement, dans le goût, il introduit des formes de variation que devrait prendre en compte aussi bien la science, qui se doit d'être historique, que la philosophie, qui doit savoir se méfier de ses penchants essentialistes. Il faut, selon lui, observer les caractères des vérités reconnues plutôt que de travailler sur des exemplaires scolastiques du vrai. Alors, tout en attribuant à la sociologie le sens de l'extrême variabilité de tout ce qui est humain, le terme de Durkheim, ce qui la rapproche de l'attitude pragmatiste, Durkheim se dit plus que réservé envers le pragmatisme, allant même avoir en lui un assaut contre la raison. Premier trait du pragmatisme, la capitulation de l'intellect face à une réalité présumée livrée au devenir permanent. Deuxième trait, qui découle du précédent, l'hétérogénéité du réel et de la pensée conceptuelle, idée dont la primeur est attribuée d'ailleurs plutôt à Bergson plus qu'à James. Dans son analyse critique, Durkheim fait d'abord remarquer qu'en voulant s'opposer à une conception statique du réel, on aboutit à cette négation de toute pensée rationnelle que constitue la fusion de la vie et de la pensée dans un état incommunicable d'extase métaphysique. Durkheim refuse par ailleurs, la prétendue évidence que le devenir échappe à la pensée scientifique, c'est-à-dire à la pensée distincte. Pour lui, le devenir est parfaitement pensable. S'appuyant sur la complémentarité des côtés statiques et dynamiques, il souligne que la mobilité pure est un mythe, puisqu'il faut toujours un point fixe pour évaluer ce qui change. Le mouvement demandant simplement à être déterminé par rapport aux deux états entre lesquels il se déroule. Alors, s'il est vrai que la réalité change, ce que personne ne conteste, pour autant, la vérité elle-même et les lois demeurent. Le comparatisme, qui est vraiment une démarche fondamentale de la sociologie de Durkheim, le comparatisme suppose l'existence de propriétés communes aux termes comparés et la possibilité d'inscrire ces termes dans un même espace logique de référence où ils peuvent être situés les uns par rapport aux autres et où plusieurs éléments possèdent une signification identique. Donc, depuis l'époque féodale, le relief européen a été relativement stable, de même que les caractéristiques physiques des sols, et même certaines passions humaines, etc. Le pragmatisme nous expose à une alternative intenable de l'immobilité et de la fluidité universelle, alors que non seulement, comme le sens commun le constate, certaines choses varient et d'autres non, mais que surtout, il y a des lois de variation sous lesquelles on peut subsumer les valeurs différentes que revêtent des cas empiriques déterminés. Durkheim rejette enfin le subjectivisme inhérent à une théorie de la connaissance fondée sur le critère de l'utilité. L'utilitarisme, qui avait déjà fait l'objet de vives critiques de sa part en matière de morale, est de nouveau combattu sur le terrain de la connaissance et pour des raisons assez semblables. La particularité ne peut être génératrice d'universalité. Nous ne sommes prisonniers ni d'expériences privées, ni de pures sensations fugitives. Grâce à la pensée conceptuelle, il est possible de dépasser un point de vue individuel pour s'élever à un ordre de choses impersonnelles. Alors, l'erreur aussi bien de James que de Bergson, selon Durkheim, découle d'un individualisme qui ne peut conduire qu'au relativisme et à l'irrationalisme. Pour y échapper, sans recourir à une solution de type platonicien, il ne reste qu'une issue, associer les notions de vérité, de connaissance et de raison à la société. Donc c'est évidemment la grande originalité de Durkheim. Donc ces trois traits, vérité, connaissance, raison, renvoient d'une façon ou d'une autre à la société. Premier trait, ce qu'il appelle la dimension morale de l'obligation. Alors, premier trait de la vérité, selon Durkheim, des propositions vraies, ce qu'il appelle la dimension morale de l'obligation, par quoi il met en avant, contre le pragmatisme, accusé de niveler le vrai et l'utile, le statut normatif du vrai. Nous ne sommes pas libres dans nos affirmations d'en user selon notre caprice. Le deuxième trait, ce qu'il appelle le pouvoir nécessitant de fait, autrement dit le réalisme. Il y a des choses qui s'imposent de l'extérieur et résistent à nos désirs et à nos représentations spontanées, lesquelles sont appelées par lui des prénotions. Les prénotions ont partie liée non pas tant avec un sens commun insuffisamment armé et informé, qu'avec une vision subjectiviste et idéaliste du social. C'est l'idée, par exemple, que l'institution familiale dérive de sentiments individuels. Ce point est essentiel dans sa théorie de la connaissance du social. Il y a un moment objectiviste inévitable en sociologie, encore assez mal compris aujourd'hui, puisqu'on prend pour une théorie déterministe ou holiste ce qui n'est finalement que l'expression de présupposés de toute connaissance objective. Durkheim ne dit évidemment pas que le sentiment familial ne mérite pas d'être pris pour objet, mais simplement, dans la lignée de la critique de l'introspection par Auguste Comte, qu'il ne saurait être considéré comme le point de départ de l'enquête empirique. C'est le sens de l'adage fameux « traiter les faits sociaux comme des choses ». Le troisième trait, enfin, est l'impersonnalité. Comment une vérité impersonnelle est-elle possible ? S'il y a une origine nécessairement extra-individuelle, elle ne saurait être, selon Durkheim, que de nature sociale. On dira que Durkheim ne fait que s'inscrire dans un cadre naturaliste, et pourtant c'est bien le contraire qu'il s'efforçait de montrer. Alors qu'initialement, il considérait, il est vrai, le social un peu sur le modèle d'une force physique, il s'est détourné de ce modèle, en particulier lorsqu'il s'est consacré à des questions de théorie sociologique de la connaissance. Les catégories de force, de cause ou de totalité ont bel et bien une origine socio-historique. Elles sont ancrées dans le groupe social qui leur sert de prototype, prototype est un terme de Durkheim, mais elles permettent d'en dépasser l'horizon premier et d'accéder à un statut normatif. Le sociologue n'est pas enfermé dans un ordre empirique de jugement de fait, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas séparés radicalement des jugements de valeur. Donc, en définitive, la tâche du sociologue, Durkheim parle, doit être de faire entrer l'idéal sous toutes ses formes dans la nature, mais en lui laissant tous ses attributs distinctifs. Et si l'entreprise ne lui paraît pas impossible, c'est que la société remplit toutes les conditions nécessaires pour rendre compte de ses caractères opposés. Elle aussi vient de la nature, tout en la dominant. En un mot, elle est la nature, mais parvenue au plus haut point de son développement, et concentrant toutes ses énergies pour se dépasser, en quelque sorte, elle-même. Le problème des relations entre raison scientifique et histoire a longtemps été délaissé à la suite de Durkheim. Dans la sociologie française, on peut trouver deux types d'explications à cela. La première est que la sociologie s'est de plus en plus éloignée de questions philosophiques, à l'exception, sans doute, de Raymond Aron, sociologue quelque peu atypique, mais son éloignement assez systématique envers le durkheimisme tenu pour rigide, a plutôt favorisé une sorte de scepticisme envers les prétentions d'une connaissance objective du social. Deuxième type d'explication, la force d'une tradition historiciste d'inspiration hegeliano-marxiste qui s'est développée surtout après-guerre, la constitution d'un savoir vrai du monde historique étant considérée comme immanente au processus historique lui-même et se trouvant résolue par la prise de conscience du philosophe ou du peuple. La recherche donc d'une conciliation entre science et histoire s'avérait inutile, ou du moins d'emblée résolue. Un savoir de ce type était considéré à la fois comme politique, philosophique et scientifique, mais c'est donc quelque chose de très éloigné de la conception d'une sociologie scientifique qui était celle de Durkheim. Donc c'est surtout, me semble-t-il, chez Pierre Bourdieu que l'on peut retrouver un souci de même nature que celui de Durkheim. En écartant les solutions jugées inacceptables, d'un côté le fétichisme platonisant et d'un autre côté le réductionnisme relativiste, Bourdieu entendait offrir une solution au problème des rapports entre le caractère socialement conditionné de la production des savoirs et la valeur objective qui leur est accordée. Tout le travail du sociologue va, selon lui, dans le sens d'une historisation des connaissances. Les problèmes, les théories, les instruments, etc., mais aussi les formes de sociabilité scientifique et de division du travail, ont une histoire que l'on peut décrire et expliquer avec les moyens ordinaires d'une sociologie historique. Or, cette histoire, si elle est une histoire de la science et pas seulement des institutions et des savants, cette histoire a une propriété remarquable, celle de rendre possible un savoir vrai. Donc, citation de Bourdieu, « C'est dans l'histoire et l'histoire seulement qu'il faut chercher le principe de l'indépendance relative de la raison à l'égard de l'histoire dont elle est le produit. » Fin de citation. Bourdieu s'est efforcé de tenir ensemble les deux côtés et, ne voulant rien sacrifier, il soutient que c'est en vertu d'un renversement paradoxal que peut s'opérer dans l'histoire l'affranchissement par rapport aux déterminations et aux conditionnements historiques, ce qu'il souligne à travers des oxymores. Citation. Des sciences sociales assumant sans faux fuyant l'historicité radicale de la raison et trempées par l'épreuve de l'historicisation permanente pourrait devenir le soutien le plus sûr d'un rationalisme historiciste ou d'un historicisme rationaliste. Fin de citation. Alors, ces termes pourront étonner, peut-être agacer, je crois qu'ils méritent d'être examinés de plus près. Alors, plusieurs questions, enfin j'en distingue au moins trois, se trouvent entremêlées. La première question concerne le mode de production des connaissances que Bourdieu rapporte à sa conception générale des champs. Une telle conception a pour objectif principal de permettre d'échapper à une vision individualiste de l'action. Une pratique déterminée ne peut pas être expliquée par des intentions, les calculs de l'individu qui en est l'auteur, mais plutôt par les caractéristiques de la position occupée par lui, position par définition relative à d'autres positions, l'ensemble de ces positions constituant précisément un champ, lieu et produit de l'histoire. Citation, le véritable sujet des œuvres humaines les plus accomplies n'est autre que le champ dans lequel, c'est-à-dire grâce auquel et contre lequel, elles s'accomplissent. Fin de citation. Dans ce cadre problématique, on peut ainsi étudier l'état du champ en fonction des prises de position les plus remarquables, s'intéresser à l'existence d'invariants, par exemple, comment les changements sont possibles, comment peuvent apparaître des individus révolutionnaires, qu'est-ce qu'un révolutionnaire, etc. Voilà, c'est tout le champ, enfin la notion de champ constitue un véritable programme de travail pour, d'une façon générale, dans la sociologie de Bourdieu, mais plus spécifiquement dans la sociologie des sciences. Autre question, celle de la correspondance propre à un champ entre l'espace des positions objectives, donc la position qu'occupe le savant dans l'espace des savants, et l'espace des prises de position proprement scientifiques. Alors c'est un principe heuristique majeur chez Bourdieu, ce principe-là, qui signifie concrètement qu'on devrait pouvoir mettre en relation des contenus intellectuels et les propriétés liées aux positions. Donc il existe bien des travaux de sociologie des sciences montrant comment des trajectoires sociales ou des styles nationaux ont pu favoriser ou décourager l'apparition de diverses sortes d'objets, de méthodes, d'intérêts, etc. Quant à savoir si ce programme peut être mené de manière précise et complète, on peut évidemment se le demander, en particulier se demander jusqu'à quel point peut être montrée l'affinité entre des propositions, des théories scientifiques et l'histoire d'un champ. L'entreprise peut paraître extrêmement difficile et parfois même sans issue. Elle se heurte en effet à différents obstacles. Il y a d'abord celui qui tient à la collecte des données, informations biographiques d'un côté, connaissances fines de l'état des savoirs dans un domaine, d'un autre côté. Ensuite, on peut être tenté de renoncer faute de compétences spécifiques, car plus un champ est autonome et différencié, plus il serait nécessaire de réunir les qualités d'un savant éminent et celles d'un sociologue exigeant. Faut-il penser que les difficultés indiscutables que rencontre pareille investigation sont des limites de fait ou bien qu'elles en mettent en cause le principe même? C'est une question qui reste évidemment ouverte. Bon. Bon, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, qu'en serait-il d'une sociologie des mathématiques, etc. Il y a eu quand même des démarches timides dans ce sens-là. Mais bon. Alors enfin, dernière question, une question en partie différente, se demander comment les jeux d'intérêt qui découlent de l'occupation de positions différentes peuvent être pris en compte en tant que tels et en même temps inscrits dans un champ qui au moins officiellement reconnaît des valeurs placées sous le signe du désintéressement. Bourdieu soutient que le champ scientifique est un univers comme un autre, soumis à des clivages, à des ambitions, à des passions, mais il soutient aussi l'objectivité des enjeux en cause dans cet univers. Les mathématiques sont les produits du champ mathématique qui seul a le pouvoir de les doter de signification et de valeur. Est-on réduit à devoir choisir entre le cynisme machiavélien, donc toute action n'est que recherche de pouvoir, et le providentialisme un peu moralisateur, selon lequel il existe une élite d'individus vertueux qui font un peu le salut de l'humanité dans le domaine de la science? Bon, il me semble que la notion d'intérêt proposée par Bourdieu, corrélativement à celle de champ, est conçue pour désamorcer cette alternative. Il ne s'agit pas de renoncer au réalisme et à tout ce qu'apporte une description concrète des actions des agents, mais le champ est lui-même générateur d'intérêts spécifiques qui sont des intérêts orientés vers l'universel, des intérêts au désintéressement. La lutte d'un individu pour imposer une théorie nouvelle entremêle des intérêts de diverses espèces, de carrières institutionnelles, de reconnaissance publique et aussi de satisfaction spécifiquement intellectuelle. Bref, la lutte pour la vérité est une lutte contre des rivaux, des adversaires, et peut-être aussi une lutte avec des alliés partiels ou totaux. Alors, citation de Bourdieu, « S'il y a une vérité, c'est que la vérité est un enjeu de lutte. » Commentaire, « En luttant avec les ressources propres au champ scientifique, on lutte aussi pour faire triompher ce que croit être la vérité, et c'est sans doute ce seul souci que la plupart des scientifiques ont à l'esprit, ne serait-ce que parce qu'ils doivent placer toute leur énergie intellectuelle dans une entreprise de ce type. Si la raison, citation de Bourdieu, si la raison avance tant soit peu et aussi l'universel, c'est peut-être parce qu'il y a des profits de rationalité et d'universalité et que les actions qui font avancer la raison et l'universel font avancer du même pas les intérêts de ceux qui les accomplissent. L'entremêlement des intérêts ne signifie pas qu'il se trouverait confondu. » Donc, citation de Bourdieu, « Dans l'ordre de la pensée, il n'y a pas, comme le rappelait Nietzsche, d'immaculée conception. Mais il n'y a pas davantage de péché originel. Et ce n'est pas parce qu'on pourrait découvrir que celui qui a découvert la vérité avait intérêt à le faire que cette découverte s'en trouverait tant soit peu diminuée. » Fin de citation. Donc, Bourdieu pensait qu'une solution de ce type évite l'écueil d'une vision angélique d'après laquelle la science serait produite par des individus vertueux, différents des esprits utilitaires, comme semblait le suggérer Peirce, du moins d'après les analyses produites par Benoît Gauthier, qui s'est beaucoup intéressé justement à cette question du savant chez Peirce. Alors, il n'est pas nécessaire de faire appel à des individus exceptionnels, et ce, d'autant plus qu'il n'est pas sûr que cela puisse vraiment servir de guide à des observations effectives. Reste que les dispositions à l'universel, inscrites dans un champ scientifique, ne peuvent pas s'auto-engendrer. Il faut sans doute avoir été doté par une histoire individuelle de dispositions préalables qui conditionnent l'acquisition des dispositions requises dans ce champ. Donc une espèce de présélection pour l'entrée dans le champ scientifique qui renvoie elle-même donc à toute une histoire. Ce que Bourdieu, d'ailleurs, a illustré pas mal dans son analyse du champ des grandes écoles, où cette analyse est fondée sur la polarité entre les écoles de pouvoir et puis les écoles de savoir. Donc, n'importe qui ne se retrouve pas n'importe où, bon, sauf exception. Donc, ni ange ni bête, l'individu en adéquation avec le nomos du champ est pris dans un jeu où l'on s'investit avec ses passions et sa raison, est pris à ce jeu au point parfois de préférer la défense d'un point de vue tenu pour juste plutôt que la tranquillité académique, les honneurs ou l'enthousiasme des journalistes. Donc, je vais traiter maintenant le deuxième point. En historicisant les débats théoriques, y compris ceux concernant la raison, ses limites éventuelles et ses dépassements possibles, la sociologie peut fournir des éléments appréciables de réflexivité et apporter ce qui pourrait bien être la plus spécifique de ses contributions, une analyse des espaces sociaux, des champs qui sont concernés, à commencer bien sûr par le champ philosophique. Et selon Pierre Bourdieu, il n'est pas d'activité plus philosophique que l'analyse de la logique spécifique du champ philosophique et des dispositions et des croyances socialement reconnues comme philosophiques qui s'y engendrent et s'y accomplissent. Fin de citation. En philosophe, Jacques Bouvresse rejoint, je crois, ce point de vue lorsqu'il déclare « Contrairement à une idée reçue, je ne considère pas comme évident qu'un philosophe doive nécessairement avoir une idée plus adéquate de sa pratique philosophique qu'un savant de sa pratique scientifique. » Donc il y a là matière à un programme de recherche empirique, la sociologie du champ philosophique, qui scientifiquement et surtout socialement ne va pas de soi, car les mêmes individus qui refusent la pertinence de ce programme sont aussi bien souvent ceux qui ne s'interdisent pas de faire eux-mêmes une sorte de psychosociologie sauvage de leur univers, tout en refusant le réductionnisme sociologique, ils n'hésitent pas, comme indigènes parlant entre soi, à parler en termes désabusés de stratégie, de marché, de mode, d'esbrouf, etc. Pas besoin d'insister là-dessus. Mais, il faut le souligner, le point de vue de Tersite, petit en vieux mesquin, ne correspond pas du tout aux objectifs et aux méthodes de l'objectivation sociologique. Donc il ne s'agit pas de proposer un double sociologique de la philosophie, de penser les philosophes mieux qu'ils ne se pensent eux-mêmes, de faire un commentaire souterrain déplacé, etc. Il s'agit de changer effectivement le regard que l'on peut porter sur ce groupe, ce changement qui est précisément l'effet du point de vue sociologique. Donc la sociologie n'est pas animée par une intention de naturalisation, mais elle ne peut pas non plus se résigner à prendre comme allant de soi, partout et toujours, la ligne de partage entre ce qui est interne, donc qui serait le domaine sacré des pensées philosophiques, des contenus, et puis d'un autre côté l'externe, c'est-à-dire les déterminations sociales. Elle demande seulement, au moins pour pouvoir travailler, de ne pas préjuger de ce qui se trouverait situé à coup sûr d'un côté ou de l'autre, de ne pas préjuger de la nature exacte de la relation entre ces deux côtés. On pourrait évidemment donner de multiples illustrations de cette question du partage entre interne, externe, une question récurrente, évidemment, pas seulement pour la sociologie de la philosophie, mais pour l'art, la religion, etc. Alors, tout univers savant possède, comme d'autres univers savants ou profanes, un arrière-plan de croyances, d'habitudes, de certitudes tacites, de flous, de malentendus dans la communication interne, des mots et des discours. C'est à la mise au jour d'un inconscient disciplinaire, d'un inconscient académique, que peut s'atteler en premier lieu l'analyse socio-historique. La définition nationale de l'activité philosophique professionnelle est solidaire de l'histoire des institutions scolaires, des découpages disciplinaires, des modalités officielles ou non officielles de certification et de recrutement, des programmes et enfin des hiérarchies de thèmes, de problèmes, d'auteurs canoniques, etc. Attachée à comprendre ce qui favorise l'intégration logique et éthique de la population des philosophes, l'analyse doit aussi envisager les principes de différenciation, ou plutôt elle doit tenir ensemble, sans qu'il y ait contradiction, l'étude des permanences et celle des variations dans le cadre d'une histoire structurale pour laquelle la notion de champ est sans doute un instrument privilégié. Ainsi, donc, le champ philosophique peut apparaître comme un enjeu de lutte, de classement et de principe de hiérarchisation, lutte qui porte en premier lieu sur la définition même de la philosophie, de ses objets, de ses pouvoirs, de ses priorités, de ses frontières, etc. De telles luttes ont toute chance de refléter une opposition entre des espèces de capital philosophique et des manières de s'en servir. Alors, au sein de ce champ, les positions peuvent être envisagées d'abord par la distance plus ou moins grande par rapport au pôle scolaire, pôle qui, en France, se distingue par un trait remarquable, qui est le lien relativement étroit entre le niveau d'enseignement, le secondaire et le supérieur, dont on peut reconnaître l'empreinte dans les programmes, les choix d'auteurs, les exercices scolaires et, évidemment, les carrières. L'orthodoxie scolaire, loin de se confondre avec l'image de conformisme assumé qui lui est d'ordinaire associée, peut être parfaitement compatible avec le culte du brillant et l'exaltation de la singularité personnelle qui font partie, ne l'oublions pas, des valeurs du système d'enseignement français, à commencer par celles qui prévalent dans le domaine des humanités. Citation de Durkheim, « Les élèves ne peuvent manquer d'être excités à rechercher par-dessus tout, non pas l'exactitude dans l'analyse et la rigueur dans la preuve, c'est-à-dire les qualités qui font le savant et le philosophe, mais je ne sais quel talent littéraire d'un genre particulièrement bâtard qui consiste à combiner les idées comme l'artiste combine les images et les formes pour charmer le goût et non pour satisfaire la raison, pour éveiller des impressions esthétiques et non pour exprimer des choses. » Ce texte est issu d'un article d'Durkheim consacré précisément à l'agrégation de philosophie. L'enseignement secondaire, enseignement généraliste, a fourni l'essentiel des traits de la doctrine pédagogique de la philosophie en France, ainsi qu'un ensemble de modes de pensée et d'évaluation. L'illustration par excellence est l'exercice de dissertation évoqué justement par Durkheim. Quant au niveau universitaire, il conserve en quelque sorte la dissertation, mais il ajoute évidemment, comme vous le savez, quelque chose de plus, à savoir un capital d'érudition incarné par l'histoire de la philosophie. Alors, cette culture scolaire a pu se reproduire à travers, sinon grâce à trois séries de transformations importantes, à savoir la consécration de la philosophie allemande depuis les années 30, au détriment de la théorie de la connaissance. Donc, je ne suis pas exactement d'accord avec ce qui a été dit hier. Je pense que c'est bien avant les années 50 que les choses se sont faites et que la France est devenue la fille aînée de l'Allemagne. Alors, via un processus compliqué, via Bergson, qui a été la valeur approchée de cette philosophie allemande, aussi bien Nietzsche que la phénoménologie, et les passages d'ailleurs entre bergsonisme et phénoménologie ont été très, très importants dans les deux sens, en France et en Allemagne. Bon. Ensuite, un trait important, c'est la redéfinition des frontières entre philosophie et littérature sous les augures de Bataille et Blanchot, avec la coopération active de personnalités éminentes comme Foucault, Deleuze et Derrida. Et enfin, plus récemment, l'ascension de philosophes médiatiques engendrée par le fonctionnement des circuits mondains et médiatiques de visibilité intellectuelle. Donc il est intéressant d'observer que les philosophes... avec ou sans guillemets, les philosophes en tout cas, représentent à peu près 60% des quelques 100 premières vedettes actuelles liées au circuit, enfin, d'après des comptages extrêmement minutieux qui ont été opérés par quelqu'un qui fait actuellement une thèse avec moi. Donc, circuit, la BNF, etc., Beaubourg. Donc ces comptages permettent de montrer le poids extrêmement important des philosophes. Donc la philosophie tend à devenir une sorte d'espéranto culturel qui assure une fonction de communication et d'unification dans l'univers lettré. Alors il y a évidemment plusieurs principes de définition de l'excellence philosophique et de hiérarchisation de ces tâches que l'on peut renvoyer grosso modo à une tension immanente entre deux logiques. La première logique exprime la force des contraintes positionnelles de la discipline renforcée par l'autorité spécifique de l'institution scolaire. Cette logique favorise la quête de hauteur et de profondeur, attribut d'une discipline doublement affranchie à l'égard du règne de l'opinion et des routines scolaires les plus communes. Cette griffe, propre à l'habitus philosophique, est ce qu'on pourrait appeler l'effet de dépassement, effet qui consiste à se placer à un point de vue inédit et supérieur et à élaborer une position jugé plus raffiné ou plus sublime, ou les deux à la fois. Étant donné la position dominante qu'elle occupe en France dans la hiérarchie scolaire, au moins jusqu'aux années 60, on peut dire que la philosophie peut apparaître comme un des signes d'appartenance à la noblesse scolaire et culturelle. Alors face à ces mécanismes de reproduction scolaire, eux-mêmes renforcés par des mécanismes externes, médiatiques et autres, est à l'œuvre une autre logique, la logique interne de rationalisation, rationalisation au sens weberien, c'est le propre de tout corps de spécialiste. Mais dans le cas de la philosophie, ce travail de rationalisation revêt une forme spécifique, proprement argumentative, puisqu'en effet, pour pareil travail de rationalisation, c'est la science qui, précisément, constitue une ressource tout à fait essentielle. Ressources étant entendues à la fois comme objet et comme méthode, les deux à la fois. Jacques Bouveresse observe que, citation, le mauvais usage des sciences et les mauvais rapports avec les sciences ne sont pour la philosophie que le reflet et la conséquence d'un problème beaucoup plus général qu'elle a avec elle-même, avec ce qu'elle est ou prétend être et avec ce qu'elle veut. Fin de citation. Les formes sophistiquées de critique de la rationalité scientifique ancienne ou plus récente se trouvent préparées par une philosophie scolaire de la science qui voit en celle-ci une entreprise instrumentale, dite positiviste, aveugle à ses propres présupposés. C'est le sens du diagnostic de Durkheim concernant les inclinations scolaires de la discipline. Donc c'est la citation. Enfin, le mysticisme est venu renforcer cet état d'esprit qui lui préparait si merveilleusement les voies. Quand en fait on se passe si facilement de la science, on est naturellement séduit par toute théorie qui en conteste la valeur. La meilleure manière de légitimer une ignorance systématique est de l'ériger en système. Fin de citation. Donc le symptôme ou l'indicateur le plus tangible de la position occupée dans le champ est peut-être simplement le rapport au classement, pour autant que ceci constitue des formes élémentaires de la pensée, sinon des formes minimales de rationalité. En effet, il y a d'un côté ceux pour qui la recherche de la précision apparaît comme une étape indispensable dans l'analyse des problèmes et pour qui il convient d'établir des distinctions pertinentes et non de chercher à les dépasser à tout prix. D'un autre côté, il y a ceux de Bergson à Deleuze, lui-même commentateur de Bergson, pour qui le classement est suspect d'ignorer l'exception, l'extraordinaire, l'hétérogène et d'enfermer la pensée dans des carcans dogmatiques, dans la prison du même et de l'identique. Le classement est ce qui, au nom de la vie, de la pluralité, de la créativité, demande à être dépassé. La notion de différence apparaît comme la quintessence même de la pensée inclassable. C'est sans doute ce qui explique la fortune considérable qu'elle a connue depuis les années 60 à travers une série inépuisable de variantes. Derrière le dépassement des classements, c'est l'identité même du penseur qui est concernée au premier chef, car il faut être soi-même inclassable pour penser l'inclassable. Mettre à jour les systèmes hétérogènes qui, sous le masque de notre moi, nous interdisent toute identité, préconise Foucault, qui célèbre le goût du carnaval, de la mascarade et d'une attitude pluraliste, perspectiviste. Citation de Foucault, « L'histoire a mieux à faire qu'à être la servante de la philosophie et à raconter la naissance nécessaire de la vérité et de la valeur. Elle a à être la connaissance différentielle des énergies et des défaillances, des hauteurs et des effondrements. » Alors, si la question des classements est aussi centrale, c'est parce qu'elle tend à réunir une dimension cognitive et une dimension sociale. Grâce à un jeu sur les classements, on peut en effet faire coup double en disqualifiant à la fois une orientation théorique que l'on peut qualifier de rationaliste et l'institution scolaire, soupçonnée l'une et l'autre de censure et de régression, à quoi on peut adjoindre parfois un progressisme jugé irrémédiablement attardé à la Troisième République. Inutile de dire de quel côté penchent les journalistes. Derrière la dualité théorique des penseurs se traduit plus ou moins subtilement une opposition sociale entre deux humanités. Donc, d'un côté, les fonctionnaires étriqués s'opposent aux explorateurs, sans halte et sans repos. Les sédentaires s'opposent aux nomades, les esprits répressifs aux esprits libérés, l'ascétisme sacerdotal au gai savoir. Citation de Deleuze, « Le plaisir de se savoir différent, la jouissance de la différence, voilà l'élément conceptuel nouveau, agressif et aérien que l'empirisme substitue aux lourdes notions de la dialectique et surtout, comme dit le dialecticien, au travail du négatif. » Donc derrière des oppositions de nature conceptuelle, Deleuze évoque bien ici une hiérarchie sociale des individus et de leur qualité. Le résultat de cette quête d'inclassable est, paradoxalement ou pas, d'aboutir à une forme de pensée binaire, interminablement reconduite, qui s'ingénie à situer toute chose concevable d'un côté ou de l'autre d'une ligne de partage, d'une ligne de démarcation qui s'impose, pour reprendre les termes de Bruno Latour, comme le grand partage, donc nature et culture, humain et non humain, etc., etc. Donc sensible et intelligible, enfin chacun a sa partition. Bien entendu, le rationaliste n'a pas le beau rôle. ou du moins on attend de lui qu'il soit irrémédiablement triste et sérieux, et c'est pourquoi un style aussi peu approprié au rôle présumé que celui de Bouveresse satiriste, peu impressionné par de telles prouesses héroïques, fait certainement partie des choses qui n'ont pu qu'aggraver son cas aux yeux de ceux qui revendiquent un monopole du rire nietzschéen. Reste à faire un constat réaliste des forces en présence. Ce que Kant appelait la philosophie laborieuse se déploie dans un espace restreint, celui des pairs. Au contraire, les penseurs du dépassement bénéficient de l'appui de groupes relativement étendus qui adressent à la philosophie des demandes de salut culturel combinant intellectualisme et anti-intellectualisme selon deux modalités principales. L'une aristocratique, qui est plutôt le fait d'héritiers se sentant à l'étroit dans les contraintes prosaïques de la pensée méthodique. L'autre prolétaroïde, selon les termes de Max Weber, qui est plutôt le fait de prétendants exclus et déçus qui donnent à leur ressentiment envers l'hiérarchie culturelle la forme d'une révolte contre la répression des tendances spontanées. Or, les grands seigneurs ne dédaignent pas toujours l'appoint de la plèbe. Je viens donc maintenant à mon dernier point.
Reste
5-10 minutes. Alors, je vais aller très vite. Donc, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je voudrais, mais pour finir, ajouter quelques mots sur les problèmes rencontrés par le rationalisme dans une discipline comme la sociologie, dont on pourrait attendre, étant donné son histoire, qu'elle ne soit pas lieu de controverses semblables à celles que l'on rencontre en philosophie. Et pourtant, il y a bien des ressemblances, et ce n'est certainement pas un hasard. Les critiques à l'encontre d'un rationalisme étriqué et scientiste sont accompagnées par certains sociologues de considérations qui ne sont pas sans évoquer les discours de rupture philosophique avec l'impensé du logos occidental. On parle non sans grandiloquence de crise, de refondation, de turn, etc. On peut s'en étonner, il existe au sein même de la sociologie des gens qui ressentent un certain malaise face au nivellement d'une pensée jugée objectiviste. Ce que l'on retrouve aussi chez de tels sociologues est une forme argumentative qui combine les approximations de la métaphore et les balises sûres de la pensée binaire. Ce qui peut-être diffère est que, en sociologie, l'emphase théorique puisse à ce point s'accommoder de résultats empiriques souvent relativement modestes ou inexistants. Alors, l'une des stratégies utilisées pour montrer les limites du rationalisme sociologique consiste à l'historiciser en le constituant en figure datée obsolète d'une rationalité close et à constituer cette espèce de fantôme qui s'appelle la sociologie classique. C'est un exercice dans lequel exerce quelqu'un comme Bruno Latour, et malheureusement, il n'est pas le seul. Alors, citation... Voilà. Alors, Bruno Latour déclare ceci. « Chez Pierre Bourdieu, par exemple, ou chez Michel Crozier, faire de la sociologie consiste à appliquer un petit nombre de règles scientifiques à toutes sortes de situations nouvelles. Dans cette optique, le sociologue impose sa grille d'analyse intangible à l'univers social qu'il s'agit moins de comprendre que de formater. Beck travaille tout autrement. Il ne veut pas régir le monde social, mais capter sa nouveauté. » Tout à fait sympathique comme intention. Il aurait fallu y penser... Plutôt, bon. Alors, rien ne semble plus terrible que d'être envoyé comme ces auteurs du mauvais côté, celui des grilles d'analyse intangibles, du formatage, etc. Donc, voilà. Alors, Latour ne se contente pas d'une critique contre des conceptions rivales. Il fonde cette critique sur les exigences du réel. Il y a toujours eu des gens qui captaient la nouveauté, mais aujourd'hui, cette attitude devient un devoir qui nous est dicté par l'histoire dont les lois changent. Alors, à nouveau citation, « S'il y a quelque chose qui change constamment au cours de l'histoire, ce sont les lois sociologiques elles-mêmes. Au lieu d'enseigner aux acteurs sociaux comment ils doivent se penser, Beck prétend apprendre des acteurs sociaux comment il doit les penser. » Alors, passons sur les objections qu'un sociologue classique, entre guillemets, pourrait adresser aux conceptions sociologiques d'Ulrich Beck, qui n'est peut-être pas un sociologue majeur, si tant est qu'on comprend bien ce qu'on veut lui faire dire. Bon, mais surtout... Bien que il ait manifestement ses propres préférences entre les deux conceptions de la science sociale qu'il distingue, Latour se garde bien d'absolutiser l'une d'elles. Et un bon relativiste renvoie chacune à l'ère historique qui lui convient. Il y a des lois différentes dans l'histoire et la loi de la période actuelle est qu'il n'y a pas de loi au sens d'expression de régularité objective. Dit autrement, Bourdieu et Crozier passons sur les intentions de cet amalgame un peu étrange, avait raison de penser comme ils pensaient lorsqu'une réalité stable, formatée, se prêtant au traitement statistique, leur offrait la matière appropriée. Ils ont eu raison autrefois. Alors autrefois, ça reste très vague, c'est avant 68 ou avant 1989. Pour le futur, en tout cas, on doit admettre l'inadéquation de la rationalité dont ces auteurs sont porteurs. Le décalage entre les instruments et la société actuelle est engendré par le processus historique lui-même. Donc avant, on pouvait penser les acteurs sociaux de l'extérieur, croire qu'on savait sur eux des choses qu'ils ignoraient et qui constituaient des contraintes externes pour leur pratique comme pour leur représentation. On pouvait être durkheimien, si vous voulez. Mais à présent, ce sont les acteurs sociaux qui vont nous dire à nous, observateurs complices, ce qui est leur vérité, si tant est d'ailleurs qu'un tel mot ait sa place. Ce qui demande à être revisité, ce n'est rien de moins que la notion de ce qu'est faire de la science. Le constructivisme social débouche sur un historicisme exacerbé qui, paradoxalement, fait obstacle à une analyse proprement historique fondée sur la comparaison entre des objets et des méthodes. Donc c'est une difficulté que Jean-Jacques Rosa a bien connue, celle de savoir si l'on peut penser aujourd'hui la maladie de Ramsès II. Alors, les sociologues situés du mauvais côté ne sont pas uniquement épinglés pour des lacunes d'ordre théorique, mais plus grave, ils sont affublés d'une déficience indissociablement théorique et morale qui consiste à se trouver du côté d'une pensée autoritaire, uniformisante, condescendante. L'orientation proposée par nombre de constructivistes est ce que l'on pourrait appeler un populisme épistémologique, attitude de prime abord très sympathique. Les spécialistes, nous est-il dit, doivent se taire, s'abolir comme observateurs savants, renoncer au lourd appareil de la construction d'objets de type durkheimien et écouter les acteurs, source de la construction de la réalité sociale. Voilà le programme. Le sociologue se voit ainsi confronté à un défi considérable, celui de travailler en double régime, avec d'un côté la prétention de dire quelque chose de justifié et en principe de vérifiable sur le monde social, et d'un autre côté un acte de dessaisissement de soi consistant, surtout quand on se dit de gauche, à se faire ignorant tout petit face à des gens qui indiquent au sociologue comment il doit les penser. C'est sans doute très compliqué, voire sans espoir, mais du moins c'est une stratégie qui permet, comme dans tout populisme d'intellectuel, de l'emporter deux fois. Une fois comme penseur humble et subtil, ayant su échapper au travers de la science ordinaire, officielle, et une fois comme détenteur, malgré tout, d'un savoir ou d'un tact qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Je voulais dire simplement deux mots pour terminer sur la façon dont on se fabrique des ancêtres, la façon dont la tour, par exemple, la tour est absolument déterminante dans le retour à Tarde, et en partie à Zimmel, qui sont d'ailleurs très souvent associés. Alors c'est intéressant de faire l'histoire intellectuelle, parce que Zimmel et Tarde étaient des grands amis de Bergson, et Bergson était, vous n'ignorez sans doute pas, un anti-durkheimien forcené. Et donc on a l'impression que c'est un peu la même chose qui se rejoue avec ce retour à Tarde. Je cite Bergson, « L'œuvre de Gabriel Tarde nous charme d'abord par la variété et la nouveauté des détails. Elle touche à tout ce qui nous intéresse et elle y touche avec une baguette magique qui fait surgir les aperçus les plus séduisants, les plus inattendus. » Alors l'enjeu dans cette affaire, c'est cette espèce de dissociation qui se produit, qui est proposée entre la finesse et la rigueur. La finesse, refusée expressément à Durkheim, est tenue pour un des attributs essentiels, non purement décoratifs, d'une sociologie bien conçue, intelligente, et inversement, la rigueur finit par passer pour une sorte de stigmate, quelque chose de l'ordre du lourd et du laborieux. Donc Gilles Deleuze écrit à la suite de Bergson, Durkheim trouvait un objet privilégié dans les grandes représentations collectives généralement binaires, résonantes, surcodées. Tarde s'intéresse plutôt au monde du détail ou de l'infinitésimal, les petites imitations, oppositions, inventions qui constituent toute une matière sub-représentative. Et les meilleures pages de Tarde sont celles où il analyse une minuscule innovation bureaucratique ou linguistique, etc. Durkheim déjà avait répondu à ce genre d'arguments dans son temps. Il écrivait « On dit qu'il y a là des choses trop fines, trop complexes pour que les grossiers procédés de la science puissent s'en emparer, que le tout est en nuance, en qualité incatégorisable, que le sentiment, l'intuition seuls peuvent apprécier. Ah, les nuances, c'est le grand mot des hommes qui ne veulent pas penser. Donc, j'ai encore une minute.
Ah, ça dépend si on veut discuter aussi. C'est une minute.
Une minute, voilà. Certains sociologues postmodernes ont voulu montrer que le caractère fragmentaire de la pensée postmoderne était un reflet, en quelque sorte, de la réalité sociale elle-même. Et c'est ainsi que Zygmunt Bauman déclare : on a souvent critiqué le caractère fragmentaire et épars des analyses de Zimmel. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la génération de Zimmel ne pouvait ou ne voulait pas comprendre que l'émiettement de la réalité sociale, selon l'interprétation zimmelienne, était la mesure même de la condition humaine moderne et de plus en plus universelle. Donc Zimmel fouillait la condition humaine d'un regard de vagabond solitaire. Du point de vue du flâneur, il semble que ce soit un spectacle sans début et sans fin, ni unité d'intrigue, de temps ou de place, sans dénouement et sans conclusion, comme au préalable. Dans la sociologie de Zimmel, il n'y a aucune place pour la société, mais par contre, Zimmel a recherché le mystère de la socialité. Donc je termine avec cela. Le job propre des postmodernes en sociologie, ça aurait été de déconstruire, justement, ou d'abolir la notion même de société. Voilà.
Merci. Eh bien, conformément au petit rituel qui s'est institué depuis deux jours parmi nous, nous allons demander à Jacques Bouvresse ses réflexions et réactions à partir de cet exposé.
J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire, mais j'en dirai très peu parce que je voudrais réellement que la discussion ait lieu avec la salle. Vous avez cité Latour à propos de la distinction à faire entre ceux qui, comme Bourdieu et Michel Crozier, ont l'ambition de régir le social et ceux qui sont au contraire préoccupés avant tout, comme Ulrich Beck, d'en capter la nouveauté. Alors ça, je dois dire que c'est quand même assez sidérant, parce que s'il y a un sociologue qui aurait contesté fortement la prétention du sociologue à régir le social, c'est bien Bourdieu. Il savait mieux que personne que le sociologue ne peut en aucun cas avoir la prétention de régir le social. Il doit plutôt veiller à s'interroger constamment sur le degré auquel lui-même peut être plutôt régi par le social, qu'il ne le régit sans le savoir, par le social. Donc c'est tout à fait étonnant. Mais cela dit, il y a des gens qui vont encore plus loin que ça. Par exemple, vous auriez pu citer Maffezoli, qui a dit qu'il se présentait comme un renifleur du social. Il ne s'agit pas évidemment pas de le théoriser, encore moins de le formater, de le régir, etc. Il s'agit de le renifler, et de préférence de renifler ce qu'il peut comporter de plus nauséabond, d'ailleurs. C'est assez remarquable. Enfin bon, je ne veux pas m'attarder outre mesure là-dessus. Ce qui m'a le plus intéressé, peut-être, dans ce que vous avez dit, et tout ce que vous avez dit était intéressant, mais ce qui, pour des raisons que vous comprendrez, m'a intéressé spécialement, c'est la relation de Bourdieu à Durkheim. On a l'impression que Durkheim défend une position qui est encore très classique sur la question des... Donc, Durkheim est un sociologue qui est ouvertement rationaliste et universaliste, qui défend une position encore assez classique sur ce point, en dépit de cette idée qu'on peut en quelque sorte réintroduire l'idéal dans la nature. Ça, c'est tout à fait fascinant, cette idée qu'il faut réintroduire l'idéal dans la nature tout en lui conservant tous ses attributs distinctifs. C'est un gros problème de savoir jusqu'à quel point c'est possible. Je pense que ça a suscité quand même de la part de Bourdieu un certain scepticisme, cette idée-là. Alors, en ce qui concerne Bourdieu, pour moi, la question principale dans ce que vous avez dit, qui se pose dans ce que vous avez dit, c'est cette idée d'un historicisme rationaliste. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un historicisme rationaliste? Je serais enclin personnellement à dire que non. Mais ça dépend évidemment de la façon dont on comprend l'historicisme. Le reproche classique contre l'historicisme, je pense que c'était celui de Husserl, hein, c'est de transformer les questions de validité en questions de genèse. Et l'anti-historicisme revient à contester à l'histoire la capacité de décider des questions de validité. Ce qui fait que là, il y a un problème, de même qu'il y a un problème quand Bourdieu dit, vous avez cité, je crois, cette phrase, « S'il y a une vérité, c'est parce que la vérité est un enjeu de lutte ». Est-ce qu'on peut vraiment dire ça, hein? C'est parce que si on dit ça, au fond, ça revient à dire la seule raison, hein, la seule réalité que comporte la vérité, c'est le fait qu'on se bat pour elle, hein, ou elle tient au fait qu'on se bat pour elle, parce qu'il semble devoir résulter de ça que la vérité, c'est en fin de compte la position défendue par celui qui l'a emportée dans la lutte. Si vous voulez. Or, il semble que si on veut préserver une idée de vérité, il faut précisément pouvoir échapper à ça. Je ne soupçonne pas du tout Bourdieu d'avoir pensé que la vérité, c'est la position que défend celui qui a gagné, hein, qui, par le fait, était le meilleur. Mais je me suis constamment posé, et je continue à me poser des questions sur ce que pouvait être son rapport à lui, à la vérité. Et dernière remarque, enfin, c'est-à-dire une idée sur les deux vérités qui ne serait pas, évidemment, qui serait pas uniquement l'enjeu des luttes. Est-ce qu'il faut considérer que la référence à une vérité qui ne serait pas uniquement l'enjeu de la lutte est une notion fâcheusement idéaliste, hein, que les philosophes peuvent à la rigueur continuer à entretenir, mais qui n'a pas sa place en sociologie. Alors, à ce propos, je raconte souvent, un échange qu'on a eu, Bourdieu et moi, à différentes reprises, qui concernait un épisode fameux, célèbre de l'histoire de la physique, hein, c'est la controverse entre Boltzmann et Mach, concernant l'existence des atomes, et où Bourdieu m'a dit à plusieurs reprises qu'on devrait pouvoir expliquer par la sociologie, hein, pourquoi Boltzmann était atomiste, et pourquoi Mach était énergétiste, hein, était opposé à l'atomisme. Et l'impression que j'ai toujours eue, c'est qu'au fond, pour Bourdieu, il y avait, par principe, le sociologue doit s'interdire les explications philosophiques. C'est-à-dire, moi étant philosophe, j'aurais été tenté de dire, il faut supposer que Boltzmann, au moins en partie, il défendait les atomes parce qu'il pensait qu'ils existent réellement, il pensait qu'il avait de bonnes raisons, il y avait des raisons objectives de croire ça, etc. Mais ça, pour Bourdieu, je pense que c'était une explication philosophique, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir quelque chose comme un intérêt pour la vérité, derrière lequel il n'y aurait pas, en fin de compte, des intérêts d'une autre nature. Hein, c'est-à-dire, même le marginal, par exemple, il est marginal parce qu'il peut espérer en tirer un profit symbolique de quelque espèce. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas du tout... on n'est pas désintéressé par désintéressement. Hein, on l'est toujours parce qu'il y a un intérêt à l'être, il y a un profit symbolique à tirer, etc. Donc, il y a chez le sociologue, me semble-t-il, en tout cas, il y avait, hein, un peu chez Bourdieu, cette tendance à dire les explications de type philosophique non possumus. Hein, et inversement, il y a évidemment chez le philosophe, mais ça vous le savez, ou plutôt tu le sais encore mieux que moi, il y a chez les philosophes une espèce de récusation par principe, hein, de toute tentative d'explication sociologique. Hein. Et je crois que ça c'est un élément qui intervient de façon importante dans l'incompréhension ou la mécompréhension qui existe entre philosophes et sociologues.
Alors, je ne vais pas apporter de solution à ce problème qui est redoutable, hein, celui de la validité spécifique des vérités scientifiques. Enfin, Bourdieu, il croyait, de ce point de vue-là, il n'était pas relativiste. Bon. Alors, où se situe la difficulté ? La difficulté, à mon avis, elle se situe plutôt au niveau du travail de sociologue. C'est-à-dire, le sociologue ne peut pas laisser la partie trop tôt. Il doit essayer de faire ce travail d'objectivation le plus longtemps possible, en fonction des données disponibles, de la compétence, je l'ai dit, mais rien n'empêche de faire l'hypothèse que fait Bourdieu. Maintenant, il y a un problème très compliqué, de quel type peuvent être les profits proprement intellectuels que l'on trouve dans l'activité, et quel est le rapport entre ce type de satisfaction et puis... des profits plus archaïques au sens psychanalytique et sociaux. Enfin, c'est une question compliquée, mais on peut au moins faire l'hypothèse que on a mené un peu la carrière scientifique, y compris dans les sciences dures, évidemment, pour lesquelles on était prédisposé. Enfin, oui. C'est une hypothèse.
Mais je pense que les sources du malentendu provient du soupçon qu'ont très facilement les philosophes que le sociologue est plus ou moins contraint de penser que à l'arrière-plan ou en dessous de l'explication philosophique ou épistémologique, je veux dire, dans le cas par exemple de la controverse concernant l'atomisme, il y a encore une explication sociologique, hein, qui est la vraie explication. Ce qui fait que, de ce point de vue, là je caricature hein, délibérément, de ce point de vue, le philosophe et l'épistémologue seraient nécessairement des demi-savants au sens de Pascal. C'est-à-dire ils savent pas, ils connaissent pas la vérité ultime sur leur propre position et sur les raisons pour lesquelles ils se situent d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu penses que ce soupçon est ridicule ou est-ce que tu penses que il peut se comprendre jusqu'à un certain point.
Dans la mesure où il y a un même objet, il peut y avoir concurrence. Je ne vais pas jouer l'ingénu, il peut y avoir concurrence. Bon. Cela dit, il me semble que ça tient en partie aux différences de point de vue. Il est évident que quand un philosophe fait l'histoire de, je sais pas, de la biologie, il a des questions qui ne sont pas exactement celles de beaucoup plus internalistes, etc., que le sociologue. Bon, et le sociologue peut se poser des questions qui sont un peu scandaleuses quand même par rapport à un point de vue internaliste, en se demandant quel est l'effet de la scolarisation, enfin des choses qui peuvent sembler tout à fait triviales. Voilà, moi je me suis posé la question, enfin à propos de faisant de la sociologie pourquoi Bourdieu, par exemple, aura été un sociologue de la pratique. Voilà, bon, si tant est que le concept de pratique soit un concept scientifique, on peut en discuter, mais enfin, qu'est-ce qui l'a porté à ça et comment peut-on avoir d'autres options Donc voilà, il y aurait une espèce de topographie à faire sur les options scientifiques en sociologie. Pensez ça sociologiquement. Mais je pense pas seulement pour la sociologie, où ça peut sembler évident.